meinen Weg, Weichen werden gelegt, ohne dass mir irgendein Penner dazwischen redet. Unebenheiten werden geheben, mit Lungen, mit Cannabis auch eingenebelt. Pack meine Stolzheit und geh aufs Ganze mit meinen Kollegen.
Entre nous, pas de politique, nur für den Beat, seulement pour le beat.
Zwischen uns keine Politik,
MC Jean Gabin,
Defcap und LD.
Entre nous, pas de politique,
nur für den Beat,
seulement pour le beat.
Zwischen uns keine Politik,
MC Jean Gabin,
Defcap
und LD.
Ich bin geflasht von ihren Videos, die am Bildschirm flimmern. Killerbeats und Punchlines, die mir heute noch im Schädel hämmern. Wir fusionieren und dem Rest der Welt bleibt stilles Wimmern. Binden wie Zement ein Fundament und werden das Haus darauf zusammenzimmern. Wir müssen alle Kräfte sammeln, wie Bosch Writers, denn ich scheiße auf Diplomaten, die nur Phrasen stammeln. Hip-Hop bläst zum Siegeszug, French Connection geht es ab. Rap ist unser Ding, Freund, wir ziehen dabei am selben Strang.
Fünf Jahre unter Gitter, über falsch Morceau pour la Prusse et Charlemagne. Rappeur sans frontière, hors zone und soul. Binamoral, moral, ras-le-bol des burn-moll, il a fallu émigrer. Sous que sereine la solidarité, Zwischen, indépendant. Un jour ça va raquer, tous sous la même bannière. En planque pour faire la guerre, für unsere Musik, interplanétaire sol. Notre style s'arrache en douce, avec un max de moist dans la musette. Fascinant, fascide mentalité arrive à s'accorder, arrive à s'accorder.
Entre nous, pas de politique,
nous fait des beats,
seulement pour le beat.
Ce chez nous, c'est pas politique.
MC Jean Gabin,
Defcap,
on est dit. Entre nous, pas de politique,
nous fait des beats,
seulement pour le beat.
Ce chez nous, c'est pas politique.
MC Jean Gabin,
Defcap,
on est dit.
Wir reisen den Eiffelturm rauf und stellen ihn neben dem Fernsehturm auf. Als Zeichen für Austausch, so sehen wir Hip-Hops eben drauf. Installieren Piratensender, schicken Botschaften in alle Länder. In neuen Tape-Decks laufen bald nur noch French Connection-Bänder. Die Musketiere fighten wir für die Krone mit Methode. Eldin, bin mein eigener Bote, wir helfen uns nach oben. Wer will uns was verbieten, nichts ist verboten. Die ganze Welt steht uns offen und so fighten wir an dieser Stelle für Revolutionen.
Échange d'idées, il faut oser, nicht des Kommen zu lügen, eux encore moins. Y'a du fun, de la femme et de la fume. Keine Angst, j'ai packé mon Luger, DFK, Aidin, Gabin, ont explosé le terrain, sans compromis, Paris à Stuttgart. Relève le défi, Ubarache, éclé, je pensais que j'étais Dodge. Dans mon pote, je suis pas boche, bof, je m'arrache, sans chelais, je te vois. Même si Jean Gabin est parti de l'autre côté du Rhin. Ta-ta-ta.
Yeah. Trotz verschiedener Sprachen fühlen wir doch das gleiche Leben. Wir zwingen die Barrieren im Sturm und lassen unsere Taten reden. Ich denke, ich schätze Frankreich nicht der schönen Frauenweg.
Queer Station.
Queer
Station. Le troisième vendredi du mois de 18 à 19h sur HDR. Tous les mois, un sujet LGBTQIA+, avec une association, un collectif, un représentant du territoire, toujours entre pédagogie et militantisme. Et on n'oublie pas, Queer Station, c'est le troisième vendredi du mois de 18 à 19h sur HDR 99.1 FM et en replay sur YouTube et Spotify. Queer Station, c'est l'heure de passer au woke sur HDR, parce que c'est déjà comme ça sur la métropole de Rouen.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Queer Station sur HDR, moi c'est So, et pour cette première émission, ce soir, on reçoit deux bénévoles de l'antenne rouennaise du Refuge. Salut, Mickaël et Adric, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Mickaël d'abord.
Salut, donc moi c'est Mickaël, je suis délégué territorial du Refuge à Rouen depuis 2020 et bénévole depuis 2018.
Oui, donc ça commence à faire un petit moment là.
Ça fait un petit moment.
Et toi Adric, du coup, depuis quand t'as rejoint le bateau Le Refuge?
Salut So, alors moi je suis arrivé au Refuge finalement il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça va faire à peu près 2 ans que je suis arrivé. Et donc je suis l'adjoint de Mika dans l'équipe de Rouen.
Super, alors Le Refuge, l'antenne rouennaise, découle d'une fondation nationale. C'est quoi les missions principales du Refuge en quelques mots?
Le Refuge, c'est une fondation qui date de 2003, si je me souviens bien, qui a pour objectif principal de recueillir, d'héberger et d'accompagner les jeunes LGBTQIA+, qui sont mis à la porte du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Alors, orientation sexuelle ou identité de genre, pour ceux qui sont un peu moins au fait, est-ce que tu peux nous expliquer
En gros, toute personne qui ne serait pas hétérosexuelle ou cisgenre.
D'accord, donc on parle de personnes trans aussi, et donc ouais. De personnes gays, lesbiennes, bi, pan.
C'est ça.
Ok, et donc du coup, ça demande beaucoup de temps pour cette protection, ça demande beaucoup d'énergie. Puisque du coup c'est une fondation nationale, donc a priori...
Du coup au niveau national on a 18 délégations avec hébergement et accompagnement. à chaque fois avec un travailleur social ou une travailleuse sociale, parce que c'est une occupation H24, 7 jours sur 7, puisque les jeunes qu'on recueille sont complètement démolis.
D'accord, donc ouais, c'est vraiment un accompagnement global de ces jeunes oui. pour peut-être qu'ils puissent rester dans la vie, peut-être dans la vie active.
C'est ça, il y a l'accompagnement scolaire, l'accompagnement social, jusqu'à ce qu'ils retrouvent en fait une indépendance dans la vie de tous les jours et financière.
Oui, parce que ça ne doit pas être facile de quitter ses parents comme ça en étant mis à la porte et de devoir construire sa vie en ayant tout ce qu'on avait projeté qui passe à la trappe, quoi.
Malheureusement, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais vraiment prévoir, ou en tout cas, on espère ne jamais avoir à faire face à ça. Et les équipes du refuge, que ce soit les salariés ou les bénévoles, on a vraiment cet objectif au niveau national sur cette partie hébergement, de pouvoir accompagner. On ne pourra pas remplacer la famille de ces personnes-là, mais on fera tout ce qu'on pourra pour essayer de les accompagner à la fois pour leur orientation, que ce soit sur les études, si possible, ou alors sur la partie professionnelle.
Super. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail de vos missions, mais tout de suite, je vous propose d'écouter un premier son dans Queer Station, et ça va être Small Town Boy, Bronski Beat, remixé par un petit DJ Moreno G.
Thank you.
Et donc, c'était Small Town. C'était Small Town Boy de Bronski Beat. Small Town Boy, c'est donc garçon d'une petite ville. Et cette chanson, elle parle de l'exil volontaire pour pouvoir vivre librement qui on est. Donc exil volontaire ou pas, exil forcé. Je trouvais que cette chanson, elle introduisait bien aussi l'émission d'aujourd'hui. Parce que souvent, on entend dire qu'en 2026, c'est plus si problématique que ça. Mais en vrai, si le refuge existe encore aujourd'hui, c'est bien que c'est des situations qui existent encore.
C'est malheureusement effectivement des situations qui existent encore et les chiffres qu'on a au niveau de la Fondation le montrent. En 2025, on a accueilli 500 jeunes sur l'année et donc c'est juste une petite goutte d'eau de ce qu'on est capable de faire nous au refuge et des personnes qui font la démarche de demander un coup de main. Et donc malheureusement, ce besoin-là, il existe encore.
C'est qui justement ces jeunes qui doivent faire appel au refuge pour trouver un refuge?
En fait, c'est des jeunes de tous horizons. On demande souvent s'il y a des classes sociales, s'il y a des régions géographiques ou quoi que ce soit qui serait plus important dans les jeunes qui sont accueillis. En fait, pas du tout. C'est vraiment tous horizons. Et aussi, on a beaucoup de migrants aussi qui font appel à nous, puisqu'ils sont obligés de quitter leur pays, sinon ils risquent la peine de mort.
C'est des situations assez difficiles, complexes, dures. Est-ce que vous pensez que le grand public a du mal à s'imaginer en fait que c'est des situations qui existent encore et qui pour vous sont très concrètes finalement ?
Il y a effectivement cette dualité-là. On a de plus en plus d'appels et de demandes d'aide de jeunes qui sont mis à la porte. Et en face de ça, on a une partie de la société qui pense qu'avec le mariage pour tous, avec l'évolution des mentalités, il n'y a plus de ce genre de soucis, alors qu'en réalité, ça augmente.
Alors c'est vrai qu'on voit, on peut se dire oui, ça va mieux pour les jeunes homosexuels, mais il y a aussi les jeunes personnes trans. Et là aussi, je présume que ça doit être parfois très difficile. Est-ce que la partie des personnes trans parmi les LGBT qui font appel à vous, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que c'est des parcours peut-être davantage compliqués puisqu'il y a aussi du médical là pour le coup qui rentre en ligne de compte?
Oui, c'est effectivement des parcours qui sont compliqués. On a de plus en plus de demandes. On fait l'accompagnement hébergement, accompagnement social. Toute la partie médicale, c'est des partenariats avec des hôpitaux, avec des médecins spécialisés. Mais c'est vrai que ça reste des parcours qui sont extrêmement compliqués et avec beaucoup de violence en fait dans le rejet familial.
Et ce que tu évoquais aussi sur le fait que les situations potentiellement avancent un peu plus par rapport à la sexualité, tu parlais de l'homosexualité tout à l'heure. On a une chance, on peut se le dire, c'est qu'il y a de plus en plus de visibilité, notamment sur les différentes orientations sexuelles. Et petit à petit, les transidentités commencent à arriver dans le paysage, on va dire, culturel et commencent potentiellement à avoir un peu plus de compréhension sur ce sujet-là. Malheureusement, ça demande des années et des années pour que les personnes qui ne sont pas directement concernées prennent en compte ça dans leur quotidien et sur le fait que ce sont des parcours qui existent et qu'on doit accompagner et qui font partie de notre entourage, en fait.
Alors là, on parlait de façon générale de la Fondation Le Refuge, mais concrètement, dans la région normande, comment ça se passe l'accueil et la protection de ces jeunes ?
Alors déjà, il y a 4 délégations normandes, dont une avec hébergement. C'est la délégation régionale qui est basée au Havre. Ils ont 3 appartements avec entre 10 et 12 places.
Ok.
Donc voilà, à l'heure actuelle, il y a 10 jeunes hébergés au Havre. Voilà, donc il y a une travailleuse sociale, obligatoirement, qui s'occupe du gros de l'accompagnement. Ils ont un partenariat avec des psychologues aussi. Et puis les bénévoles s'occupent de tout ce qui est activité en soirée, activité ludique, etc. Et l'accompagnement, je dirais, plus du quotidien. Et la travailleuse sociale s'occupe plus du gros de l'accompagnement social et de la reconstruction.
Oui, pardon. Non, vas-y, je t'en prie.
Et il y a un point, effectivement, que je voulais préciser aussi, c'est que on a effectivement une délégation d'hébergement en Normandie. La réalité, c'est que les personnes hébergées dans cette délégation ne sont pas forcément des personnes qui sont normandes. Dans les parcours de vie qu'on rencontre par rapport à ce type de problématique d'exclusion familiale, on a parfois besoin de s'éloigner de la région de laquelle on vient initialement pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et donc, c'est là où on a la force d'être une fondation au niveau national, c'est de pouvoir avoir des hébergements dans différentes villes de France et de pouvoir, du coup, permettre à ces personnes qui auraient besoin de s'éloigner de prendre ce recul-là pour démarrer quelque chose de nouveau.
Du coup, on va dire, en Normandie, donc vous disiez que l'hébergement, c'est au Havre, et donc il y a Rouen. Est-ce que vous pouvez nous citer les deux autres antennes ?
Il y a Évreux, pour la partie anciennement Haute-Normandie, et Cherbourg-en-Cotentin.
D'accord, donc un maillage du territoire quand même assez important. Est-ce que du coup, quand vous parliez d'orientation, notamment de personnes qui viennent d'un peu plus loin, etc., est-ce que du coup, la Normandie, c'est plutôt une région accueillante pour un nouveau départ ?
Je pense que dans ce genre de situation, le vrai sujet, ce sera de trouver des personnes qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner. En tout cas, on a la chance d'avoir pu rencontrer, nous, de la délégation de Rouen, les jeunes qui sont hébergés au Havre. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de trouver cette communauté-là, ce groupe, en fait, entre les bénévoles, les autres jeunes. C'est surtout ça qui va embarquer dans une nouvelle dynamique. Alors après, il y a peut-être un petit peu moins de soleil ici, mais on sait que qu'on a les beaux jours qui arrivent. Donc ça, c'est une bonne approche.
Alors, du coup, le refuge, c'est quand même une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Ça veut dire que la mission est quand même un peu importante. Et ça veut dire quoi d'autre d'être reconnu d'utilité publique ?
Alors, il y a plusieurs choses derrière. D'abord, c'est le fait qu'on vient en aide à des personnes qui sont en grande difficulté. Donc déjà, ça, c'est l'aspect primordial.
C'est acté, ça.
Voilà. Ensuite, il y a des éléments fiscaux. Les dons qui sont faits à une association ou à une fondation qui sont reconnues d'utilité publique, qui viennent en aide à des personnes en difficulté, sont déductibles à 75% des impôts.
Okay.
Ça facilite aussi le legs et le mécénat, voilà, globalement. Et puis, d'un point de vue aussi aide et subvention, on a un soutien de la part de l'État.
Oui, parce que du coup, pour mettre à l'abri des jeunes et avoir un accompagnement social, ça a un coût quand même. Donc, vous voyez que depuis que vous êtes reconnu d'utilité publique, est-ce que ça facilite du coup le fonctionnement ou ça facilite en tout cas l'appel aux dons ?
Ça facilite l'appel aux dons. Faut savoir que le refuge fonctionne à plus de 80% sur des dons de privés.
D'accord, ok,
donc
c'est énorme.
Les dons de particuliers ou du mécénat d'entreprise.
D'accord, ok. Et cette part importante, comment est-ce que vous la valorisez au quotidien ? Est-ce que c'est justement important de parler de ce que vous faites pour continuer à avoir des dons et puis peut-être diversifier ou que voilà, d'autres personnes puissent se dire « Ah bah d'accord, ok, en fait, je peux donner, je vais pouvoir avoir une déduction et faire, enfin, agir pour une bonne cause ?»
On a effectivement plusieurs enjeux au niveau des dons. C'est qu'on a du coup une fondation nationale qui nous permet d'avoir au quotidien un budget de fonctionnement pour la délégation. Mais c'est vrai que tous les projets qu'on va vouloir monter au niveau local, ça va être vachement important pour nous d'avoir des dons des personnes qui sont présentes, notamment pour pouvoir accompagner les jeunes un peu plus sur leur quotidien, sur l'aménagement des appartements, sur le fait de rendre la vie un peu plus agréable au tous les jours. Et en plus de ça, nous, on va avoir des événements qu'on va essayer de monter, d'autres types d'actions et dont on parlera un peu plus tard, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Pour lesquels on a parfois besoin de fonds pour pouvoir mettre un point de démarrage sur les différents événements ou les différents projets qu'on va vouloir lancer et pour pouvoir donner de la visibilité, créer des événements sympathiques pour à la fois les personnes directement concernées ou en tout cas pour aller sensibiliser sur le sujet. Donc voilà, les dons ont un vrai enjeu au quotidien pour nous en tant que délégation et pour la sensibilisation et pour les jeunes qui sont hébergés.
Alors du coup, il y a des moyens financiers, mais il y a aussi des moyens humains derrière. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à rejoindre l'équipe de bénévoles rouennais? Et d'ailleurs, vous êtes combien dans cette équipe?
Aujourd'hui, on est 25 bénévoles dans l'équipe de Rouen.
Et c'est une belle team, ça.
Ouais, ça a beaucoup bougé. On est passé à un minimum de 2 pendant quasiment un an. Et là, en 2 ans, on est remonté à 25, ce qui est assez incroyable. Moi, à l'origine, j'ai su qu'il y avait le refuge au Havre en donnant des meubles suite à un déménagement. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'une équipe se montait aussi à Rouen. Et voilà, c'est comme ça que je me suis engagé.
D'accord, donc ça, c'est... on part d'un don et puis allez, hop, embarqué dans l'histoire et depuis, t'y es resté. Qu'est-ce qui fait que t'y restes?
Parce que ce que je fais au refuge me plaît énormément. Je me sens utile. Et voilà.
Ouais, c'est vrai que là, c'est très concret finalement, en fait, l'utilité humaine, la solidarité. Et toi, Adric, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans l'aventure?
Alors, pour ma part, il y a deux choses et qui sont finalement des chances qui m'ont poussé à rentrer dans l'aventure. C'est que la première chance, c'est que j'ai eu une période un peu de transition au niveau professionnel. Et donc, ça m'a donné du temps pour pouvoir commencer à me poser la question de « Ok, j'ai envie d'en faire quoi de ce temps-là » Et donc, j'ai vu que le refuge était présent sur Rouen et je me suis dit que c'était l'opportunité d'aller découvrir l'équipe, notamment, et les actions qui étaient faites pour pouvoir peut-être m'y engager. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai assez peu subi d'homophobie. Et quand j'ai vu ce que ça pouvait faire autour de moi, je me suis dit « J'ai eu cette chance » notamment parce que des personnes se sont battues ou en tout cas se sont engagées avant moi sur ce sujet-là. Et je me suis dit que c'était l'occasion de prendre ce temps-là, de prendre cette opportunité, à la fois de pouvoir développer moi quelque chose qui pouvait m'épanouir, comme le disait Mickaël tout à l'heure, mais aussi et surtout en ayant un vrai impact derrière, de pouvoir idéalement réduire les formes de discrimination. Pas que l'homophobie, mais globalement les discriminations, et en particulier là, les LGBT-phobies.
Ouais, et puis du coup, on est même sur les conséquences finalement de ces discriminations. C'est peut-être presque agir pour réparer ces discriminations sur le refuge. En tout cas, ne pas les laisser aller plus loin en termes d'impact que ce qu'elles ont déjà impacté les jeunes. Est-ce que je me trompe?
Le refuge essaye d'avoir une mission... assez global. Donc on a effectivement beaucoup parlé de la partie accueil et hébergement des jeunes, où là on essaye effectivement de réparer ce qu'on peut et de reconstruire des chemins de vie. Et on a aussi, et ça c'est un vrai enjeu au niveau de la délégation de Rouen, tout un pan sur la partie sensibilisation et prévention. Et donc là on n'est plus dans le fait d'essayer de réparer, mais on essaye d'empêcher ou en tout cas de réduire le nombre de fois où ça pourrait se passer.
Oui, ça sera l'objet de notre deuxième partie d'émission. On reviendra sur vraiment les actions concrètes à Rouen. 25 bénévoles, vous disiez. Je présume que c'est une grosse équipe à manager, mais c'est aussi des possibles. Est-ce que c'est exaltant de voir aussi toute cette mobilisation en local?
Ah ben, moi qui ai connu l'équipe où on n'était que deux, oui, c'est sûr que c'est exaltant. C'est pas toujours simple non plus. Mais voilà, c'est le jeu aussi. Après, tu as utilisé le mot « manager ». En fait, on ne le voit pas vraiment comme ça. On est plus animateur d'équipe que vraiment manager, parce que ça reste du bénévolat. Ça reste des personnes qui veulent s'engager, mais qui n'ont pas toujours forcément beaucoup de temps non plus. Donc voilà, chacun s'engage à hauteur de ce qu'il ou elle est prêt à donner. Et sur les sujets dont on a envie.
Oui, voilà. Parce que je suis, pour préparer cette émission, on ne va rien vous cacher, sur HDR, je suis venue à une de vos permanences. Bon, c'est quand même bon enfant, il y a de quoi grignoter, voilà, il y a des canapés. C'est vraiment une ambiance sympathique. C'est important justement pour tenir dans la durée quand on est bénévole.
Ben, je pense que si on n'arrive pas à créer une équipe qui se tient et qui a envie d'être ensemble, mener ce type d'action-là, ça devient compliqué parce qu'on fait quand même face à des situations difficiles, émotionnellement parfois. Et de savoir qu'on est entouré d'une équipe avec qui on se sent bien et avec qui on est en train d'avancer, je pense que ça nous aide au quotidien.
Eh bien, merci beaucoup. On va passer au prochain son de cette émission. Et donc, ça va être Lala Rami, une artiste trans, avec son titre Malika.
Rapote, 17h03, j'ai 17 ans et je suis au plus bas. Y'a papa qui crie, maman, c'est pas pourquoi. Y'a nulle part où je me sens chez moi. J'allume un J avec un Sundra. Le baccalauréat, ticket Pelé Ponka. À 7 ans, j'écrivais pourquoi moi. Oh, mais j'avais mes licornes. Ici, on veut pas de toi. Maman m'a dit que je t'appelle, personne la verra. Papa me dit c'est la chouma, donc n'en parle pas. Maman m'a dit t'es en enfer, tu brûleras. J'ai toujours été une reine sous une malika. Le problème n'a jamais, jamais été moi. Oh, bikini ou en furabaya. J'n'ai même remarqué nos crônes nanaya. Maman, I'm grown sous les malika. Avant j'avais peur et je rêvais d'ailleurs. Le cœur sur la main. Cool, j'ai plein à perdre tout de terre. Paris, un quartier. Dis-moi, Hadjara, si rêve me le police. J'parlais de trois agresseurs et quelques racistes. J'ai fait 20 scènes avec un seul titre. Mais toujours pas celui de ce jour. J'dors pas la nuit, j'travaille le jour. Ils font de nous des troubadours. Et quand on crie, ils font les sourds. J'ai pas eu la ME. Mais j'ai plus d'âme qu'une sirène dans un monde rapide. J'leur donne des coups de queue. En Gautier, dans le taxi, c'est fashion week le samedi. J'croise Monica Bellucci. Elle me dit que je suis jolie. Star Hawken demande pas c'est qui. Retour à la bref le lundi. Pour attendre comme tous les mardis. Et quand j'vais au studio, je dis, j'passe. C'est ça, je passe ici, si on veut pas de toi. L'été m'a dit, si jamais tu réussiras. Mon ex m'a dit, t'es pas la priorité, lala. Maman m'a dit, dans les limbes, tu resteras. J'ai toujours été une reine, sous le malika. Le problème n'a jamais, jamais été moi. En bikini ou en furabaya. J'n'ai même le mot que nous coulons.
Des invités du rap queer en Normandie tous les troisièmes vendredis du mois sur HDR de 18 à 19h. Et on repart dans cette deuxième partie d'émission avec Mickaël et Adric du Refuge, l'antenne de Rouen. Et là, on va vraiment s'intéresser aux actions hyper locales pour cette deuxième partie d'émission. D'abord, il y a quand même votre présence sur des événements, puisqu'on le disait un peu avant, il faut collecter des sous pour protéger les jeunes et les héberger, les mettre à l'abri. Alors concrètement, comment ça se passe, la collecte de dons et la vente de goodies, a priori, sur des événements locaux?
Alors, on a un énorme partenariat avec le Zénith. Donc déjà, ça, c'est vraiment un partenariat génial qui nous permet de voir beaucoup de monde, donc d'être visible auprès d'un public très large et des gens qui viennent nous voir pour poser des questions, pour comprendre ce qu'on fait. Donc déjà, ça, c'est énorme. Effectivement, notre objectif sur des stands comme ça, c'est avant tout de récupérer des dons pour aider le quotidien des jeunes qui sont hébergés au Havre.
Du coup, concrètement, vous y êtes présents tous les combien à peu près? Comment ça se décide?
Ça dépend de nos disponibilités par rapport aux différents spectacles qu'il peut y avoir.